VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Billon.
Il est 17h temps universel. Bonsoir, bienvenue. Conflit dans le nord du Mali. De violents affrontements ont opposé les forces pro-gouvernementales du groupe d'autodéfense Touareg, M'AD et alliés aux rebelles Touareg dans les environs d'Adefis. C'est à environ 120 km au sud de Kidal, des parties qui ont pourtant toutes signé l'accord de paix au Mali. Le bilan de ces trois jours d'intenses combats qui s'élèveraient à un mort côté Gassia et 12 dans les rangs du SEMA, la coordination des mouvements de l'Azawad, deux chefs rebelles auraient également été capturés, nous dit Kassim Traoré, notre correspondant à Bamako.
Depuis le samedi 15 août jusqu'au lundi 17 août, des combats intenses oppose les éléments de la CMA à ceux du Gacha et alliés dans la région de Kidal. Les premiers affrontements se sont déroulés à quelques kilomètres de la ville de Kidal. C'est lundi 15 août, après des combats à Anefis, les Gacha et alliés ont pris le contrôle de cette localité. Ils ont perdu un homme et un véhicule. Du côté de la CMA, le bilan est lourd. 12 rebelles ont été tués, 4 véhicules récupérés et 2 chefs rebelles capturés. Dans la même journée, les combats ont continué dans les environs de Kidal, plus précisément dans la localité de Tassi, à une cinquantaine de kilomètres de la capitale de l'Adra des Iforas. Au même moment, les éléments de la CMA stationnés à Agelhok se sont réfugiés dans les camps de l'aménagement de cette localité. D'autres hommes en fraction dans la région de Kidal ont replié sur la ville de Kidal, abandonnant leur base. Car les prochains combats entre la CMA et les Gacha seront autour et à l'entrée de la ville de Kidal, qui demeure l'enjeu et le défi pour les hommes de Gacha et alliés. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Le président du Soudan du Sud a refusé de signer un accord de paix proposé par les leaders régionaux de l'IGAD, l'autorité intergouvernementale pour le développement en Afrique de l'Est, ceci pour mettre un terme à la guerre civile qui ravage le pays depuis décembre 2013. C'était aujourd'hui à Addis Abeba, en Éthiopie, peu avant l'expiration d'un ultimatum fixé par la communauté internationale aux belligérants pour paraffer le traité. Selon la médiation, le gouvernement de Salva Kiir a demandé un délai de 15 jours supplémentaires. Jacques Aristide.
Ce devait être la date butoir, mais la montagne n'a accouché que d'une souris, car les protagonistes du conflit sud-soudanais ne sont pas parvenus à un accord de paix total. Ce sont seulement Pagan Amoum, secrétaire général du parti au pouvoir, SPLM, et l'ancien vice-président Riek Machar, chef des rebelles, qui l'ont signé, mais pas le gouvernement qui a émis des réserves. Pourtant, la poignée de main auparavant entre le chef de l'État Kiir, présent dans la salle, et son ex-adjoint Machar, avait laissé entrevoir un accord définitif. Cette cérémonie de signature n'est pas complète sans la signature du gouvernement, a regretté le médiateur de l'IGAD, Seyoum Mesfin, d'ajouter que les autorités ont décidé de repartir dans leur pays et mener des consultations. Il a également indiqué que le président Kiir reviendrait d'ici 15 jours dans la capitale éthiopienne pour parachever cet accord de paix.
République centrafricaine, une nouvelle plateforme politique dénommée le Rassemblement centrafricain pour l'Union sacrée a été mise en place hier à Bangui. Le but de cette formation politique qui regroupe en son sein les anciens leaders des milices anti-Balaka et l'ex-coalition Séléka est de promouvoir la paix et la réconciliation nationale. Des précisions avec le général Mohamed Moussa Dafan, dirigeant de cette plateforme. Il a été joint à Bangui par Félix Yepassi Zembrou.
Nous avons mis en place un rassemblement dénommé Rassemblement Centrafricain pour une union sacrée, pas pour aller aux élections, mais pour créer les conditions de paix, de réconciliation et de cohésion sociale entre les Centrafricains. Et donc à double titre, d'abord la paix entre les Centrafricains eux-mêmes, et ensuite une autre attente qui est celle de la communauté internationale qui nous accompagne pour aller vers la paix. Donc il faut répondre à ces deux impératifs et donc créer les conditions de développement économique du pays à court terme.
Des voix s'élèvent pour demander la mise en place d'une troisième transition. Qu'est-ce que vous en dites ?
Nous ne sommes pas dans cette logique-là. Le Rassemblement centrafricain pour une union sacrée est un rassemblement, une plateforme pour accompagner le processus politique et soutenu par la communauté internationale et notamment les États de la CEAC, donc la sous-région. Et donc nous ne sommes pas pour une nouvelle transition, mais plutôt accompagner ce processus politique jusqu'à son terme.
et Mohamed Moussa Dafane, président de la nouvelle plateforme politique, le Rassemblement centrafricain pour l'Union sacrée. Des partisans du premier ministre de Guinée-Bissau destitué appelaient ce lundi à une manifestation et à une grève pour exiger sa reconduction. Et d'après l'AFP, la grève semblait moyennement suivie ce matin à Bissau, sur laquelle s'abattait une forte pluie depuis les premières heures de la journée. Plusieurs services de l'administration fonctionnaient, mais avec moins de personnel que d'habitude. Les banques et commerces étaient ouverts, la circulation plus fluide qu'à l'accoutumée. Conflit en Libye, les États-Unis, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et la Grande-Bretagne dénoncent les actes barbares commis par le groupe État islamique en Libye et exhortent les parties rivales libyennes à s'entendre sur un gouvernement d'union nationale pour combattre la menace posée par les groupes terroristes transnationaux qui exploitent la situation en Libye pour atteindre leurs propres objectifs. De violents combats ont éclaté la semaine dernière dans la ville de Sirte, où des habitants ont pris les armes pour essayer de déloger l'État islamique qui contrôle cette ville depuis le mois de juin. Et les djihadistes ont exécuté au moins 34 personnes sur place. En Afrique du Sud, nouvel appel du parquet dans l'affaire Oscar Pistorius, l'ex-champion paralympique jugé pour homicide involontaire pour avoir abattu sa petite amie, pourra être jugé donc finalement pour meurtre.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Les députés irakiens ont transféré à la justice une enquête parlementaire jugeant notamment l'ex-premier ministre Nouri al-Maliki, responsable de la chute de Mossoul. Le groupe extrémiste sunnite État islamique avait lancé une offensive fulgurante dans le nord de l'Irak en juin 2014 en s'emparant de Mossoul face à des forces gouvernementales en déroute. Lors de cet assaut, l'armée irakienne avait battu en retraite, abandonnant armes et équipements utilisés par la suite par les djihadistes de l'État islamique. Guerre civile en Syrie, l'ONU condamne les raids aériens du gouvernement qui ont fait près d'une centaine de morts hier sur un marché très fréquenté de Douma, une ville située à 13 km au nord-est de Damas. Bagassi Koura.
Il est inacceptable pour un gouvernement de tuer ses propres citoyens, quelles que soient les circonstances. C'est ce qu'a déclaré Staffan de Mistura, l'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie. Dans son communiqué, il explique que les frappes menées hier par des forces fidèles au président Bachar al-Assad ont été dévastatrices. Les attaques de zones civiles avec le lancement à l'aveugle de bombes aériennes telles que des bombes incendiaires sont interdites par le droit international, prévient M. de Mistura. L'envoyé spécial de l'ONU dénonce également les raids de l'opposition ainsi que les coupures d'approvisionnement en eau qui affectent les civils. L'accès humanitaire doit être assuré sans condition et les tueries doivent cesser. Ce conflit ne se résoudra pas de manière militaire, comme cela a été prouvé ces dernières années, réitère le représentant onusien. L'envoyé spécial appelle toutes les parties syriennes à mettre fin à tout acte de violence et à engager un dialogue. Les dernières séries de négociations à Genève en 2014 s'étaient soldées par un échec.
Inquiétude persistante en Chine après la catastrophe de Tianjin qui a fait officiellement 114 morts. Les autorités chinoises s'efforcent de contenir des centaines de tonnes de cyanure hautement toxique sur le site des explosions. Nicolas Pinault, la colère gronde parmi les habitants.
Selon le vice-maire de Tianjin, environ 700 tonnes de cyanure de sodium étaient stockées dans l'entrepôt où ont éclaté les puissantes déflagrations la semaine dernière. Des opérations de nettoyage de grande ampleur, très difficiles et délicates, sont toujours en cours, selon M. He, qui s'exprimait lors d'une conférence de presse dans cette métropole située à 140 km de Pékin. Les efforts de nettoyage sont compliqués par la présence dans la zone portuaire de quelques 18 000 conteneurs de fret maritime et par les craintes que des pluies annoncées dans la soirée ne favorisent la propagation dans l'air de cyanure d'hydrogène. Les équipes de secours ont construit des barrages de sable et de terre délimitant une zone de 100 000 m² autour du site pour éviter toute fuite de composants polluants. Des analyses d'échantillons d'eau recueillies au plus près du lieu des explosions ont révélé dimanche des niveaux de cyanure 27 fois plus élevés que la normale. Des experts militaires en armes nucléaires, bactériologiques et chimiques ont été déployés, tout comme des spécialistes du cyanure de sodium. Sur place, la colère monte. Environ 150 sinistrés, dont les appartements se trouvaient à seulement 600 mètres du lieu des explosions, ont manifesté ce lundi pour faire entendre leurs inquiétudes, mais aussi pour réclamer des indemnisations.
Merci Nicolas Pinault. Prochaines informations sur la Voix de l'Amérique, c'est dans 20 minutes seulement dans le magazine Le Monde Aujourd'hui. La présentation sera sur aujourd'hui par Eric Manirakiza et Morgan Guiriec. Jean-Roger Billon à ce micro, merci de nous avoir suivis. Restez fidèles à la VOA.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.